Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Sophie.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, je suis vraiment tout émue là.
Oui.
C'est vraiment c'est extraordinaire ce qui m'arrive. Bon, je suis donc sur l'antenne, c'est bien ça, j'ai
oui.
bien compris.
Ah oui, ça y est, vous êtes en direct avec moi Sophie. Non. J'entendais pendant la chanson Paul qui vous disait « vous inquiétez pas, c'est normal d'être un peu intimidée ». Ben ça y est, vous
Il
êtes
est
à l'antenne.
Il est super gentil.
Oui,
Paul.
Il vous met en confiance avant que vous soyez oui. à l'antenne. Vous écoutez l'émission, vous voyez que bon.
Je l'écoute tellement depuis quelques années, et en particulier depuis que j'ai perdu la vue.
Oui.
Donc, depuis que je ne peux pas regarder la télé, que je ne peux plus lire, j'écoute la radio.
Mais oui, je comprends.
Alors,
c'est un lien important.
Il y a les grosses têtes qui m'intéressent, il y a
oui.
les infos qui m'intéressent,
oui.
et puis il y a votre émission qui m'intéresse.
Ah bah écoutez, ça
voilà.
nous touche de savoir que on est un lien pour vous et important. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ça s'est passé quand? Vous avez perdu la vue? À quel moment, Sophie?
Eh bien, j'ai appris, j'avais à peu près 35 ans.
Oui.
J'ai appris que j'étais touchée par une maladie génétique.
Oui.
L'ironie du sort est que je suis généticienne. C'est le but de mes études. J'ai fait de la génétique, de l'immunologie et de la virologie. Et voilà qu'on me dit ça. Et ouais. donc, je me suis dit, pendant des années, je me suis dit, j'espère que ce n'est pas demain que je serai aveugle. Donc tous les matins, je me levais, j'ouvrais les yeux, je me disais, mon Dieu, est-ce que je vois encore la couleur de la confiture? Est-ce que... Enfin, c'était...
Et vous avez vécu avec ça, ce poids, cette épée de Damoclès depuis l'âge de 35
voilà.
ans, quoi. Chaque matin,
ouais.
vous ouvriez
voilà.
les yeux et il y avait la lumière, il y avait... C'est ça.
Et oui, et je voyais mon entourage qui était joli et... Je dois ajouter une chose, j'habite dans deux pays.
Ah j'habite bon, limitrophes, donc.
Comment?
Dans deux pays limitrophes.
J'habite pendant l'hiver en Allemagne.
Oui.
Dans un appartement qui est très confortable, parce que le reste du temps, c'est dans le sud de la France, au bord de la mer. Et l'hiver, là, j'ai trop frais. Les appartements là-bas, au bord de l'eau... Ils ne sont pas vraiment adaptés. Il me faudrait plus de... Je suis frileuse.
Oui, ben je vous comprends. Donc là, vous êtes dans le sud actuellement?
Là, maintenant, je suis au bord de la mer encore jusqu'à mi-octobre.
Oui,
fin
et
octobre.
Vous n'êtes pas touchée là? Vous n'êtes pas dans un département qui a été touché par les inondations?
Non, je ne suis pas du côté du sud-est.
D'accord.
Je suis en Occitanie.
Ah, d'accord. Ouais, c'est une belle
voilà.
région. D'accord.
Oui, c'est beau.
Et il fait doux encore.
Comment?
Il fait doux encore, vous qui aimez la douceur.
Non, et ben aujourd'hui, il ne faisait pas doux du tout. Il faisait 13 degrés, il pleuvait, mais ce n'était pas ça du tout. Mais bon.
La semaine dernière était très belle, me dit
oui,
Marc.
C'est vrai.
Bon.
C'est vrai. J'étais à la plage, on était en maillot de bain.
Quel contraste, oui, alors en effet.
Oui.
Ouais.
Ouais.
Et là, c'est le coup de faire une flambée.
Ça me fait du bien de vous entendre, Caroline. Vous avez une jolie voix, non seulement à la radio, mais même au téléphone.
Ah bon? Merci.
Merci beaucoup de
mais non,
m'avoir
mais alors, oui, vous dites, alors c'est comme vous dites, vous êtes généticienne, vous travaillez, donc à l'âge de 35 ans, on vous annonce que vous avez une maladie génétique.
Voilà. Et à 58 ans, par là, ouais. ça, la vue disparaît progressivement, c'est une dégénération progressive de la rétine. Et donc, du coup, un jour, je ne l'ai pas vu venir. Un jour, il n'y avait plus rien. J'étais en train d'écrire un livre. J'écrivais un livre sur mon ordinateur. Et là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Je n'arrive plus à vraiment écrire. Et depuis, je suis devant le même mur, du matin au soir. Un mur gris, un mur gris clair ou un mur gris foncé. Toujours le même, que je sois dehors ou que je sois dedans. Mais mon problème, moi je pensais que ça serait le pire. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est le comportement de mon entourage. Et surtout de ma famille. Et c'est ça le problème que j'ai. Et c'est pour ça que...
Qu'est-ce qui se passe avec votre famille?
Eh bien, tout le monde... je suis l'aînée de sept enfants.
D'accord.
Et, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que je devienne aveugle, tout le monde venait me voir, on me demandait conseil, on me demandait de l'argent, j'aidais à gauche, à droite, j'étais bien placée.
Vous étiez celle qui avait réussi dans la famille,
voilà,
parce que généticienne.
Voilà, c'était ça. Et maintenant, Sophie n'est plus rien du tout, elle est aveugle, alors on est au resto et on se dit, j'entends des réflexions. Où est-ce qu'on la met, Sophie? Où est-ce qu'on va la poser, comme si j'étais un sac de blé ou un sac de farine, quoi. Et ça me fait mal. Et quand je riposte et quand j'essaye de me défendre et de dire, écoutez, vous pouvez... Un peu de respect, c'est une histoire de... Je me sens humiliée, quoi.
Et le comprennent, ça, ou est-ce que c'est intentionnel ou est-ce que c'est de la maladresse? Et je suis d'accord avec vous, évidemment, que je comprends que ça vous blesse. Et surtout, c'est déjà blessant, ça serait blessant pour tout un chacun, mais au vu de la position que vous occupiez dans la fratrie, en tant qu'aîné, de par votre réussite, vous étiez celle vers qui on se tournait, celle qui avait un savoir, celle qui avait des revenus, et là, comme si vous deveniez, enfin, comme si vous étiez un paquet, un peu encombrant, qu'on ne sait pas où mettre, je reprends l'expression.
Voilà. Où est-ce qu'on va mettre Sophie ce soir? Par contre, avec les amis que j'ai, ou bien je paye des personnes qui m'aident, quoi, je aide à la personne, ça s'appelle. Eh bien, là, ça se passe très très bien. Je leur dis que je touche leur bras droit, leur coude droit, et quand on va boire un verre dans un café, eh bien, ils mettent leur main droite, la main au bout duquel moi je suis avec la mienne de main, je suis le coude et je descends jusqu'à la main et j'ai tout de suite le dossier de la chaise. Donc, tout se passe discrètement. On se comporte avec beaucoup de respect vis-à-vis de moi.
Oui, une délicatesse, en fait. Voilà. Mais est-ce que déjà auparavant, il y avait cette absence de... peut-être de délicatesse, de... Vous voyez, il y a un côté brut de décoffrage, je trouve, là, un peu.
Je ne sais pas vraiment. Tout ce que je sais, c'est qu'avant, avant la cécité, on était à mes petits soins, quoi. On était à mes petits soins. C'est pas vrai. On me respectait.
Oui, c'est différent.
Voilà, on me respectait.
Vous en imposiez même certainement. Enfin, il y avait, je vous dis, en tant qu'aîné, de par votre parcours. Études que vous avez faites, votre profil.
C'est moi qui ai payé les études de certaines de mes sœurs. C'est à moi qu'on demandait, Sophie, tu peux m'aider?
Mais parmi alors, quand vous me parlez de... Vous vivez seule? Vous êtes en couple? Vous avez vous-même des enfants?
Je suis seule depuis... Oui. J'ai perdu la vue. J'ai dû arrêter de travailler, donc...
Oui, c'est terrible, parce que c'est un métier qui vous passionnait.
J'étais dans la recherche clinique. J'ai perdu tout ça. Et puis, mon époux, on s'est séparés, car c'était trop compliqué pour lui d'être avec une aveugle. Il était médecin lui aussi. Enfin, lui aussi, non, lui il était médecin. Donc je suis seule depuis, mais je me débrouille très très bien, c'est-à-dire
j'ai
pas mal d'amis.
Heureusement, mais c'est dur quand même, parce que vous, entre cette cette perte, enfin, ne plus voir, perdre la vue, toutes les conséquences que ça a engendré dans votre vie. Déjà, ne plus pouvoir travailler, vous qui faisiez de la recherche. Et vous dites, finalement, c'est pas tant... Vous parlez de ce mur tantôt gris clair, tantôt gris foncé, mais c'est pas tant cela qui est le plus dur, finalement, dans ce que vous dites. C'est le mur auquel vous vous heurtez de
le matin, je me rends compte que c'est... Des fois, je rêve que je bois.
Oui.
Et je me réveille et je me dis, non, de toute façon, c'est clair, Sophie, c'est foutu, c'est comme ça que je pense. Et puis après... Je fais mes affaires, j'ai un joli appartement, je l'ai dans ma tête, tout comme la géographie de mon entourage, que ce soit en Allemagne ou que ce soit en France. J'ai cette géographie dans la tête, je cuisine, j'adore cuisiner, j'ai des amis qui viennent.
Vous êtes sacrément adapté parce que oui, vous faites de jolis. C'est parce que vous me dites ça s'est passé. Vous aviez 58 ans. Il y a combien de temps?
En 2018, ça s'est passé. Mais je ne sais pas si c'est au début de l'année ou au milieu ou à la fin. Oui, tout ce que je sais, c'est que depuis 2018, j'ai arrêté d'écrire.
Ça ne fait que 3 ans, si.
Oui, c'est ça.
En 3 ans, vous arrivez.
Je suis débutante.
Oui.
Dans le royaume des aveugles.
Ben oui, mais c'est ce qui est terrible. Enfin, c'est ça qui est là où on voit votre famille ou dans les réflexions, dans les attitudes, vous relègue au rang de personne handicapée, alors qu'en fait vous restez la Sophie que vous étiez,
d'avant.
Que vous êtes. Ben oui. Dans votre personnalité ne change pas, votre sensibilité, vos compétences, vos qualités, vos défauts, enfin vous restez cette Sophie-là. Et ce qui est terrible, on voit bien que même, on voit au sein de votre famille, mais aussi au sein de votre couple, comme si c'était devenu un moment trop difficile.
Et pour les autres.
Oui, on ne voit plus que le handicap.
Alors, voilà, c'est ça. Et c'est ce que, des fois je me dis, invalidité. J'ai une carte qui est marquée carte d'invalidité. Invalide. Oui. Une carte invalide. Mon ticket de métro, il est invalide. Il n'est plus valide. Ça n'a plus de valeur. Et ça me fait mal au ventre. Et quand je vois maintenant mes frères et sœurs, qui, eux, maintenant, nous venons de perdre notre père, fin août. Il est décédé du Covid. Alors que moi, j'étais celle qui disait à tout le monde, il faut le protéger, notre papa, il a 84 ans. Attendez, je suis virologue, je lui ai dit de se faire vacciner. Non.
Il n'était pas vacciné.
Il est mort, il est étouffé, quoi.
Ouais.
C'était affreux. Ouais. Et tout ça, il y a eu l'enterrement. Mais là, après les obsèques, on s'est retrouvés tous à une table dans une petite brasserie, pas loin de l'endroit où il est enterré.
Oui, oui.
Justement, c'est un endroit. Je ne veux pas dire le nom parce que il y a une personne très connue qui est elle aussi enterrée dans ce cimetière sous un petit pin parasol de préférence. Vous voyez à peu près, peut-être, je ne sais pas.
Un acteur du théâtre.
Non, un chanteur connu, un chanteur français est enterré pas loin de la tombe de notre père. Bref. Et bien après,
à 7, peut-être.
C'est ça.
Ouais, c'est Marc qui me souffle, ça lui parle. C'est ça, Georges Brassens.
C'est ça.
Ah oui, d'accord.
Et c'est là que je suis.
C'est magnifique.
Ouais, c'est beau.
Il y a cette douceur
devant
dans
mes fenêtres.
Enfin,
on voit la mer.
Vous l'avez dans. Vous l'entendez.
Mais je la vois et je l'entends, ouais. C'est ça. Mais pendant cette rencontre, nous étions 15 personnes à peu près, parce qu'il y avait pas mal de frères et sœurs, et des anciens amis de mon papa. de l'autre papa.
Oui.
Et là, il y a pas mal de personnes apparemment qui m'ont... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est qu'un de mes frères m'a dit que j'avais été... qu'est-ce qu'il m'a dit ? Un mot affreux, affreux ? Que j'avais été abjecte. Ou... Je lui ai dit, mais...
Que j'étais, mais il faisait référence à quoi ?
Au moment de... On aurait essayé de me parler, que je n'avais pas répondu. Alors j'ai essayé de lui dire, mais ferme les yeux, mets-toi un bandeau sur les yeux. Et tu es entre 20 autres personnes. Il y a certains qui disent, comment tu vas, toi ?
Et oui, vous ne saviez pas à qui répondre. Il y avait trop de voix autour de vous, trop de monde. Voilà. Et puis vous étiez dans l'émotion, puisque c'était les obsèques de votre papa.
Ça, c'est le mot. Voilà ce
c'est lui qui a été exécrable de vous dire ça. C'est lui qui a été odieux de vous dire ça.
Merci de me dire ça, ça me réconforte, ça me réconforte. Et puis, vous savez ce que j'ai fait après.
Il vous agresse en vous disant ça, enfin.
Oui. Oui. Mais moi, ce que j'ai fait après, j'ai fait ce que j'avais toujours voulu faire depuis longtemps, longtemps. Je suis partie pendant 10 jours sur le chemin de Compostelle.
Ah oui ?
Aveugle. Avec une amie à moi, de l'école, quand on avait 12 ans, on a fait connaissance.
Oui.
50 ans plus tard, j'ai 62 ans.
Oui.
50 ans plus tard, on se retrouve et on fait 10 jours Compostelle. Moi, aveugle, et elle, guide, et elle a des problèmes de santé assez plus graves que la cécité même. Mais on s'est débrouillé et c'était superbe. Et j'ai oublié tout ça. Et j'ai oublié tous les problèmes, tous les reproches et toute la jalousie aussi de mes frères et sœurs.
Mais c'est ça, le mot est lâché en fait. C'est ça, il y a quelque chose comme si vous faisiez payer au fond. Parce qu'ils se tournaient vers vous, ils avaient besoin de vous, enfin vous étiez celle qui pouvait les aider ou financièrement ou les dépanner, enfin celle qui savait. Mais au fond, il y avait certainement beaucoup de jalousie derrière tout ça. Derrière. Alors, je ne sais pas si les autres, vous me dites que vous avez aidé certaines de vos sœurs à faire des études.
Oh oui.
Mais donc ils ont des bonnes situations, vos frères et sœurs également?
Et justement, ils n'ont rien réussi. Ils n'ont rien réussi. Moi, je m'en sors mieux que tous les autres.
C'est ça oui, que mais vous, et alors, ils pourraient, ils ne se comportent pas tous pareil. Il y en a peut-être dont vous êtes plus proche, dans une grande fratrie comme ça, on a plus d'affinité avec certains qu'avec d'autres.
Voilà, et c'est là que j'ai fait connaissance, parce que en fait, nous sommes 5 enfants, mais après que notre père nous ait quittés pour une autre dame, après ça, il a eu 2 autres enfants.
Ah d'accord.
Et avec l'un de ces deux, je m'entends très très bien et il souffre lui aussi de toutes ces histoires de jalousie. Mm. Et puis maintenant, il s'agit de testament et d'argent et de tout ça. Et tout le monde se rue sur mon père m'a confié pas mal de cartons à lui. Il m'a dit, c'est toi qui les gardes, tu dois les garder, tu les gardes. Et puis après,
alors, vous devez les garder
je ne sais plus quoi faire. Donc, c'est...
Moi, qu'est-ce qu'il y avait dans ces cartons? C'est très dur.
Je n'en sais rien, je ne les ai pas ouverts encore.
Oui,
par
mais
respect.
Si c'était votre père si c'est une décision de votre père, il doit vous revenir. C'est qu'il voulait vous transmettre quelque chose de particulier à vous. Et tant pis si ça suscite la jalousie.
Peut-être
de toute
que
façon,
ce sont des
là.
Livres. Si c'est des livres, évidemment, je vais les offrir à qui veut les avoir. Parce que moi, je ne peux plus rien faire.
Avec il y a les livres audio, peut-être vous pourriez.
Oui, c'est avec ça que. Oui,
déjà, moi, vous m'impressionnez. Et je pense que beaucoup d'auditeurs, en vous écoutant, ressentent aussi cela par la force de caractère qu'il vous a fallu.
Je suis émue d'entendre ça. Parce que...
Non, mais parce que c'est quand même un vrai parcours de résilience. Je trouve que ce mot est un peu galvaudé aujourd'hui. Dès que quelqu'un fait quelque chose, il devient résilient. Mais je trouve que là, franchement, dans ce que vous me dites, en l'espace de 3 ans, quoi, à peine, où finalement, c'est c'est tout qui est à... Vous l'avez dit d'ailleurs, vous êtes, vous avez tout à inventer, à recréer.
Toute une géographie dans ma tête.
Oui, c'est ça. Et voilà. Il y a certainement... C'est pas être aveugle de naissance, évidemment, c'est dur, mais il n'y a pas... Il n'y a pas eu... C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette adaptation à faire que vous, en tant que voyante, vous devez vous réadapter à tout. Et là, quand vous me dites que vous êtes partie faire Compostelle avec cet ami, vous avez marché combien de temps? Vous avez...
8 jours.
8 jours.
8 jours. On faisait 20 km, 22 km tous les jours.
Vous aviez besoin à ce moment-là, tous les gens qui disent, qui ont fait le chemin, comme ils disent, en reviennent quelque part différents, un peu transformés, quelle que soit la longueur du chemin d'ailleurs. Il paraît que c'est pas ça qui compte.
Moi, ça m'a fait du bien au ventre parce que j'ai toujours des problèmes de ventre. Et quand je me suis rendu compte que ça m'avait fait du bien, ça m'a calmée.
Oui.
Et puis ce salut quand on voit d'autres, mais il y a des gens qui me doublent évidemment, qui disent buon camino, et bon, ça me fait plaisir quoi.
Oui.
Et puis
il y avait quelque chose de chaleureux, de fraternel au fond. Vous vous reconnaissiez, sans mauvais jeu de mots. Il y a quelque chose entre vous, entre comment on les appelle d'ailleurs. C'est pas les marcheurs maintenant.
Les pèlerins.
Les pèlerins. Oui, c'est ça.
Les pèlerins. Voilà. On avait des coquilles Saint-Jacques. Qui faisait du bruit le long de nos sacs à dos là. On savait au moins, moi je savais où était ma compagnie parce que il y avait le bruit de la coquille.
Ben oui. Tout d'un coup, c'est ça. Enfin, heureusement, les autres sens se développent, paraît-il, assez rapidement. Enfin, avec une acuité,
et beaucoup d'autres sens. J'entends mieux. Enfin, c'est pas que j'entends de mieux, mais je suis beaucoup plus
réceptive. Voilà.
Et puis aussi la sensibilité, aussi le sensoriel au niveau du toucher.
Oui.
Je remarque beaucoup plus de choses. Et là, vous savez, je suis sûre que il y a d'autres personnes qui sont touchées, qui perdent un sens, ou bien un membre, ou bien qui se retrouvent eux aussi, invalides.
Oui, ce terme.
Je pense que ces personnes-là, moi, j'aimerais bien faire connaissance avec eux parce que eux, ils ont plus de sensibilité. Ils savent ce que c'est que d'avoir perdu quelque chose de cher.
Oui.
Et peut-être, moi, si je pouvais faire connaissance de ces gens-là, moi, faire le chemin de Compostelle en poussant un fauteuil roulant, volontiers. Je trouverai sûrement les chemins qu'on peut prendre pour le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on peut s'entraider. Il n'y a plus l'égoïsme, il n'y a plus tous les sentiments de mes frères et sœurs. Vous savez, mes meilleurs amis, ce sont des personnes ce sont mes amis. Moi, je les ai choisis. Mais ma famille, je ne l'ai pas choisi. Mmh. Et ils ne sont pas gentils avec moi. Ils ne sont plus gentils avec moi.
L'ont-ils été auparavant, au fond? C'est ça. Alors, parfois, au moment de la perte d'un parent, parfois et même souvent, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se rejouent de l'histoire de chacun, de l'enfance de chacun. Et dans cette émotion que chacun exprime, vit et exprime différemment, il n'y a pas toujours les meilleurs côtés de nous-mêmes qui ressurgissent. Mais parfois, les plus mesquins, les plus petits, enfin, vous voyez, des choses comme ça qui ressurgissent, pris dans dans ce moment quand même très particulier. Et Mais on voit autour de l'héritage, et même si il n'est pas conséquent, se rejouent d'autres attentes, en fait. D'autres, toi, tu as été plus aimé, alors moi, je vais réclamer d'autant plus ce à quoi j'ai droit. Alors qu'on sait bien que, de toute façon, l'argent ou des biens matériels ne compenseront jamais ce ressentiment-là. Mais malheureusement, il y a votre frère qui vous agresse. Vous voyez, parce que au fond, c'était gratuit. Quand bien même vous auriez été, on ne peut pas reprocher à quelqu'un le jour de dire t'as pas répondu quand on t'a appelé. Quand bien même vous n'auriez pas perdu la vue, c'est un moment tellement particulier. Chacun est un peu en lui-même. Donc là, c'était gratuit son agression. Enfin, gratuit. Ça faisait un moment que ça couvait. Ce qui est dégoûtant, pour ne pas dire plus, c'est ils choisissent le moment en fait où vous êtes vous vulnérable.
Non, vous avez tellement raison.
C'est ça qui est douloureux.
Je ne l'ai pas vu comme ça, mais c'est vraiment ça. Vous avez vraiment raison, Caroline.
Mais le problème, c'est que je pense qu'elle existait cette envie, cette rivalité, cette jalousie. Et puis peut-être que aussi, il y a aussi un manque. Je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est un manque? Au-delà de la gentillesse et de l'empathie, enfin de la bienveillance, peut-être un manque d'éducation aussi. Enfin, vous voyez, dans le fait, parce que quand bien même quelqu'un qui a un handicap, on va dire, bon, où est-ce qu'on le met ? C'est pas une chose, c'est une personne et qui, comme vous dites, a les mêmes qualités ou défauts, les mêmes compétences, les mêmes capacités que ceux qui n'ont pas de handicap, mais qui possède quelque chose d'autre, de par le handicap, parce qu'il doit trouver, vous avez dû trouver en vous, vous avez dû puiser en vous des capacités pour vous adapter. Et pas pour vous adapter quand tout du jour, enfin ça s'est fait progressivement, mais un jour vous étiez en train d'écrire et vous êtes dans le gris. Tout d'un coup, le monde, il n'y a plus toutes ces couleurs, il n'y a plus la lumière, il y a un mur gris devant vous. Et là,
mais je continue à écrire. Par contre, j'ai trouvé une dame à qui je dicte mon livre.
C'est ça. Parce que j'allais vous demander justement à travers des associations, parce que c'est important aussi pour vous, parce que vous avez tout ce travail de recherche que vous avez. J'allais dire que vous avez entrepris, ça fait des années que vous êtes là-dessus. Vous me dites virologue, on a besoin de personnes comme vous. Comment ça se passe ? Je ne sais pas si comment vous travaillez dans un laboratoire, dans un...
Non, je faisais des exposés devant beaucoup de profs et de médecins en ce qui concerne la génétique, en ce qui concerne la diabétologie. Ça, c'était les dernières années que j'ai faites. J'étais surtout en diabétologie. Et là, j'ai fait des formations et j'éduquais les patients. Et c'était les
Il y a beaucoup, c'est vrai que ça se développe beaucoup, l'éducation aux patients pour qu'ils se prennent en charge. Ça,
oui. Et je faisais évidemment je devais faire des exposés dans des hôpitaux pour expliquer au corps médical, aux médecins.
Oui, je comprends. Et oui, donc vous travaillez beaucoup sur les écrits, quoi. Enfin, vous travaillez sur les travaux. Est-ce que vous avez gardé un contact avec... est-ce que dans ce milieu-là, vous avez gardé des contacts Est-ce que vous avez des amis? Parce que certains...
Oui, c'est exactement ça. J'ai beaucoup j'ai des amis, des collègues. C'est-à-dire que je travaillais dans un laboratoire pharmaceutique. Je faisais ce qu'on appelle... à la fin, je ne pouvais plus prendre la voiture. Je devais travailler. J'avais un bureau, j'avais mon ordinateur, mon téléphone, ma secrétaire, et je faisais ce qu'on appelle un medical check. Donc, je vérifiais toutes les données des patients qui sont dans des études en diabétologie.
Oui, c'est très pointu, quoi.
J'étais chargée de tout ça jusqu'au jour où
je me suis dit... Vous n'avez pas pu...
Là, ça ne va plus faire face. il faut que je parte.
Vous avez fait un appel, Sophie, en disant il y a sûrement des personnes comme moi qui ont été confrontées à un moment où le handicap est entré dans leur vie et qui n'ont rien perdu de leur potentiel d'être humain. Et vous dites, j'aimerais finalement correspondre avec eux. J'aimerais, parce que vous avez non seulement beaucoup à donner aussi, et puis, alors, il y a des gens qui répondent présents au standard de Parlons-nous, 09 69 39 10 11. Ce que je vous propose, c'est qu'on marque une courte pause musicale. Ça ne vous ennuie pas ? On marque une petite pause musicale. Et après, nous accueillerons Louisette et Michel. D'accord, qui nous rejoindront sur l'antenne. Vous restez bien en ligne avec nous.
On vous retrouve.
22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Sophie, vous êtes là ?
Je suis là,
Caroline. Merci d'avoir patienté, Sophie. Alors, ça nous a permis, pendant ce temps-là, de recueillir les appels des auditeurs au standard et de faire une petite sélection, parce qu'ils sont très, très nombreux à appeler au 09 69 39 10 11. On pourra vous donner des coordonnées hors antenne, mais il y a pour le moment Louisette, Michel et Thérèse qui sont là. Je vous propose qu'on accueille tout de suite Louisette. Bonsoir, Louisette.
Bonsoir, Caroline. Je suis très heureuse de vous parler, parce que je vous écoute depuis votre première émission sur les ondes.
Oh là là, merci. Alors merci, alors, ça fait longtemps. Merci de votre confiance et merci d'avoir appelé ce soir.
Parce que vous m'avez beaucoup aidée. Je suis actuellement encore chez une psy grâce à vous.
Ah ben écoutez, tant mieux que tout se passe bien pour vous et de ce côté-là. Et ce soir, Louisette, vous avez appelé parce que vous avez entendu l'appel de Sophie qui est là et qui vous écoute.
Oui, alors justement, moi je suis allée en rééducation à Nîmes, un centre de rééducation, et je vous assure que ils font des miracles.
Parce que vous avez perdu la vue également ?
Non, pas encore. Moi, j'ai un handicap associé.
D'accord, d'accord. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font dans ce centre de rééducation ?
Ah bien, écoutez, par contre, je vais vous citer une personne qui a perdu la vue par un glaucome. Oui. Eh bien, une personne qui fumait énormément. Eh bien, un jour, elle est allée chercher son paquet de cigarettes seule.
Ce qu'elle n'arrivait plus à faire, ce qu'elle avait peur de faire, elle évidemment.
Elle avait perdu son autonomie.
Oui, hein? Bien sûr, oui. Oui, mais vous avez entendu Sophie qui vous écoute, hein? Vous pouvez vous adresser à elle, elle est là. Sophie,
bonsoir,
Bonsoir.
Qui a fait Compostelle.
Oui, non, mais c'est un centre. L'important, c'est de retrouver son autonomie. Et puis, il y a toutes les associations. Il y a Valentin Wy qui a des livres, une bibliothèque extraordinaire. Il y a le groupement intellectuel des aveugles en Biop qui ont le matériel. Il y a comme toute cette technologie qui permet d'être autonome.
Oui. Donc vous vouliez encourager Sophie et lui dire que voilà, peut-être se tourner vers les associations si ce n'est déjà fait, qui peuvent être d'un grand secours.
Oui, avec le potentiel qu'a cette dame, elle peut énormément nous apporter.
Mais voilà, vous avez tout résumé, je vous remercie, parce que c'est ça, potentiel humain. Potentiel intellectuel, et c'est ça qu'on oublie trop souvent dans notre vision du handicap, malheureusement, c'est qu'on voit toujours que peut-on apporter aux personnes handicapées, on ne voit pas assez ce que les personnes handicapées ont à nous apprendre, en fait, aussi, sur y compris sur nous-mêmes. Merci beaucoup, Louisette, vous avez tout dit, et merci encore de votre fidélité. Vous êtes nombreux à réagir au standard, donc je voudrais donner la parole le plus possible aux uns et aux autres. Je vous propose maintenant, Sophie, qu'on accueille Michel. Bonsoir, Michel.
Bonsoir, Caroline.
Et bienvenue, je crois qu'on s'est déjà parlé hein, d'ailleurs, Michel, je vois sur votre petite fiche, vous étiez motard, vous. Oui.
Voilà, j'ai eu la chance de partir en retraite à 55 ans, j'étais motard, 8 mois plus tard, on m'a interdit la moto, On m'a dit, vous avez un problème. J'ai manqué d'avoir des accidents, on ne comprenait pas pourquoi. Et là, depuis 2 ans, je ne vois plus la télévision, je ne vois plus l'ordinateur, je ne vois plus rien. Tout est en train de disparaître. J'étais un grand bricoleur, j'arrive à me bricoler et tout. Mais j'ai la chance, par rapport à Sophie, j'ai la chance d'avoir mon épouse avec moi, qui me soutient énormément.
Oui. Et elle est là, Sophie, elle vous écoute. Parce que quand vous êtes mis à l'antenne, vous ne relisez pas, mais vous pouvez vous parler entre vous.
Bonsoir, Sophie.
Bonsoir, Michel. Merci de...
Voilà. Et ce qui se passe, c'est que là, depuis quelques mois, je vais à ce qu'on appelle le relais Basse Vision, qui se situe à Angers, à 100 km de chez moi, où je vais de temps en temps.
Oui.
Et ils m'apprennent la locomotion, comment cuisiner... Tout ça. Et là, aujourd'hui, j'ai fait des œufs durs pour la première fois.
Tu vois, c'est tout. Mais bravo. La piètre cuisinière que je suis vous félicite, parce que moi, vous voyez, même sans... il n'y a pas si longtemps que ça que je fais des œufs durs. Donc, je vous félicite. Mais alors, comment... Oui, parce que c'est ça, ça paraît... on sourit. Oh. Mais il faut savoir mesurer le temps de cuisson.
Parce que c'est
10
tout
minutes.
Bête. Avec mon épouse, je disais, je prenais un téléphone portable. Déjà, je vois pas les touches du téléphone portable.
Mais oui.
Je disais, minuteur, tant de minutes, ça marchait pas, voilà. Je courais, ça a trompé. Et j'ai été mardi dernier à un relais qui s'occupe des aveugles. Et la dame m'a dit, mais il y a une petite astuce. Vous achetez des petits bouts de caoutchouc qui servent à freiner les portes, là, pour pas que les portes claquent
oui,
dans les cuisines.
Oui.
Et elle m'a montré ça.
Et alors, mais comment, qu'est-ce qu'on fait avec ces bouts de caoutchouc après?
Ce sont des tout petits bouts de...
Oui, mais à quoi ça sert pour faire, par exemple, pour mesurer la durée de la cuisson?
Alors, moi, ce que j'ai un œuf qu'on tourne pour le minuteur. C'est comme un œuf partagé en deux et vous faites pivoter la partie inférieure. Ben, en face du zéro, j'ai au-dessus et en dessous... un petit truc en caoutchouc, je sais que ça c'est le zéro.
Ah oui, d'accord. C'est bien.
Et
c'est,
voilà, j'ai dit à mon épouse, c'est parce que c'est autre, moi je pourrais pas le faire, mais j'ai dit, colle-moi ça en face de 8 minutes. Bon, 8 minutes, j'ai dit on met 9 parce qu'ils étaient pas assez cuits, mais peu importe. Donc j'arrive maintenant à faire plein de choses.
Mais voilà.
Et il y a une chose. Pendant 2 ans, ma femme a dit que j'étais infernal. Parce que j'étais bricoleur, je me sentais plus capable.
Mais oui.
Et c'était ça le pire. Et mon frère, et un truc qui m'a fait un mal énorme, c'est mon frère aîné, mon frère, car on a 14 mois de différence, on s'est jamais. Il m'a dit, mais maintenant tu seras bon qu'à manger des sandwichs. Ça m'a fait mal.
Ouais. Oh, il y a des paroles vraiment.
Là, ça m'a fait mal. Et puis, du coup, maintenant, on a eu un repas ce week-end, tous en famille. Et il m'aide. Et je dis, faut que je me débrouille.
Oui.
Mais si on voit que ça va pas, ben, il m'aide. Et puis, j'ai dit, il faut tout prendre à la rigolade. Hein. J'aurais dit, moi, je ne veux pas que. On m'aide, je vais t'aider. Mais, parce que pour le moment, je distingue encore. J'ai plus les reliefs ni les contrastes, mais vous me lâchez dans une rue que je ne connais pas, je reste 3 quarts d'heure, 1 heure assis ou debout dans le coin en train de dire où je vais.
mais je vous comprends, parce que déjà en tant que personne, valide, je suis désolée parce que je sais que le mot invalide vous heurte, mais déjà le bruit parfois, ça dépend où on habite, mais moi je vois le retour dans les grandes villes, quand on revient après une pause comme ça estivale, le bruit. Et déjà il y a quelque chose, je trouve, moi, au départ très agressif, et quand on ne voit pas et qu'il y a cet environnement sonore autour, enfin comme s'il y a des dangers en fait et des obstacles partout, je comprends qu'on soit tétanisé.
Voilà, et j'habite en pleine campagne. On est dans un terrain de 6700 mètres carrés en pleine, mais on ne voit personne. On est vraiment à la campagne. Et il y a quelques temps de ça, je ne sais plus combien de temps, j'ai voulu traverser la rue tout seul. Il y a une voiture qui a pilé. J'avais pas vu la voiture.
Mais c'est là que je me suis dit.
Oui. Et voilà. Donc je vais pas prendre trop de temps pour.
Non, mais vous vouliez. Vous avez entendu l'appel de Sophie.
Oui,
vous
de
dites
Sophie.
Vous vous retrouvez enfin.
Il y a des aides énormes. C'est C'est phénoménal tout ce qu'ils m'ont appris, moi ça m'a...
Des aides en fait pour retrouver de l'autonomie aussi, c'est ça, parce que c'est important aussi, vous avez l'honnêteté de dire pendant 2 ans, au début, votre femme, elle a tenu, bon, mais elle vous trouvait infernal, parce qu'il y a de quoi, c'est infernal. Parce c'est infernal, c'est invivable d'être confronté à ça. Et il y a de quoi devenir, avoir envie de hurler, d'envoyer bouler tout le monde et de le vivre comme une injustice. Vraiment, aussi.
Ça a manqué. Je bricolais énormément. Mais j'ai un garage où j'ai plein de matériel. À un moment donné, ça a manqué de voler à travers le garage.
Vous avez tous vos doigts, vous continuez à bricoler. Oui.
Ah, bah, j'ai fabriqué des jardinières pour mon épouse et tout.
Formidable.
Et parce que j'étais déjà bricoleur. Donc, et là, demain, on va aller acheter des planches et tout le matériel parce qu'elle veut des jardinières pour ses géraniums.
Oui, elle vous booste. Elle vous dit, bon, ça y est maintenant. Mais vos témoignages forcent l'admiration. Parce que, on se dit... Qu'est-ce qu'il faut comme capacité quoi d'adaptation pour faire face comme ça quand ça vous tombe dessus? Vraiment. Je vous propose, on va accueillir avant minuit, je voudrais encore qu'on accueille Thérèse. Bonsoir Thérèse.
Bonsoir.
Et merci d'avoir appelé le standard parce que vous avez écouté Sophie et vous avez été profondément émue.
Ah oui, j'ai été emballée par Sophie. Je suis beaucoup plus âgée qu'elle. J'ai 90 ans tout juste.
Ah bon?
Mais je la trouve extraordinaire. Je veux lui dire que, oui, que je l'admire. Que je l'admire pour ce qu'elle fait, tout naturellement. Parce que elle continue à vivre tout naturellement. Oui. Elle nous donne une leçon. Je vois clair, moi, mais je fais pas le quart de ce qu'elle fait. Elle a fait
Compostelle. Oui.
J'ai jamais eu le courage de le faire. Non. Et puis cette vitalité, je la félicite. Elle a une voix très agréable.
Elle a une jolie voix, c'est vrai, Sophie. Vous avez dit aussi une chose très jolie. Vous avez dit, Thérèse, Sophie, elle nous donne de l'espoir.
Ah, exactement.
Vous entendez, Sophie?
Oui, je vous entends. Ça me touche tant. Vous savez, cet appel, ça m'enrichit d'entendre, de vous entendre et d'entendre Thérèse, parce que vraiment, ça me redonne de la valeur.
Mais vous en avez, vous en avez de la valeur, Sophie. Vraiment, je dis pas ça pour vous forcer l'admiration. Elle a raison, Thérèse. Elle a raison. Et vous n'avez rien perdu de votre valeur. Et même, j'irai qu'il y a quelque chose qui s'est encore amplifié en humanité. Dans votre désir, finalement, vous pourriez vous replier quand on est malheureux, quand on souffre. C'est humain de se replier. Et non, vous appelez et vous dites, moi j'ai envie, parce que j'ai encore des choses à donner, à partager.
Oui, on le sent au travers de... Oui.
Thérèse, allez-y, parce que c'est vos mots font beaucoup de bien à Sophie, je crois.
Oui. Moi, je la remercie. Je la remercie pour Thérèse. Ce qu'elle a dit, parce que ça m'a... Alors, c'est moi qui vous remercie. C'est merveilleux. Vous me redonnez du courage.
Oui.
Pas besoin, parce que 90 ans, ma route est déjà faite.
Hein? Oui, la route, mais le chemin.
Il y a toujours un bout de chemin qui continue.
Et oui.
Voilà. Buon camino.
C'est joli, vous le dites bien en plus. C'est ce que dit aussi la... Oui, Thérèse, on vous écoute.
Non, mais je disais à Sophie, je me permets de vous embrasser parce que j'ai envie de vous embrasser.
Voilà. Oui, c'est joli parce qu'on sent votre émotion et votre tendresse aussi. Vous savez, hors antenne, si vous le désirez, puisque c'était un peu aussi le sens de votre appel, Sophie, de dire on peut vous mettre en relation. Et quand on dit je me sens... C'est poignant de vous entendre dire, vous, avec la valeur que vous avez, et qui n'est pas uniquement liée, évidemment, il y a les études que vous avez faites, il y a cette intelligence, il y a ce au service des autres, mais il y a aussi tout ce potentiel humain. Et ça, vous n'avez rien perdu de cela.
Ah non. Oui.
Et vous nous le transmettez,
moi je le sais,
ça s'entend.
Mais les autres, ils ne le savent pas.
Attendez, les autres, oui, mais les autres, en fait... Au fond, si, et ils en sont jaloux. C'est ça le problème. C'est terrible, mais il y a beaucoup de jalousie dans les propos de vos frères et sœurs, Sophie. Il y a beaucoup de jalousie. et qui s'exprime là. Et c'est d'autant plus, d'autant plus douloureux. Mais finalement, c'est comme si vous qui réussissiez tout, là, oui, ils vous attaquent au moment où vous êtes vulnérable. Mais bon, ils sont dans quelque chose de... Finalement, d'une forme d'étroitesse, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est, comme vous dites, vous avez vos amis, vous êtes entouré, heureusement, de gens qui vous aiment et qui ne vous résument pas au fait que vous avez perdu la vue. Vous êtes tellement plus que cela.
Oui, je vois ça dans l'immeuble où j'habite. J'ai fait des connaissances et puis on se voit les uns les autres. Entre-temps, oui. je peux tout faire seule.
Vous avez besoin des autres. Vous avez fait en très peu de temps, comme nous le disait Michel, Louisette. C'est-à-dire qu'il y a des dispositifs qui aident, mais il y a aussi ce besoin des autres parce que. Qu'on ait un handicap
oui,
ou pas.
J'aimerais bien une belle vie de famille, vous savez. Être seule dans le noir, être seule en technicolor, c'est beau. Mais dans le noir, c'est pas très beau.
Mais vous savez, on a tous dans la tête une famille idéale. Oui, on s'est tous construit et puis quand on regarde la famille que l'on a, ben ça c'est comme un papier calque, vous voyez, ça c'est il y a un léger décalage. On doit composer avec. Là ça apparaît avec d'autant plus de force et c'est d'autant plus douloureux, mais il y a d'autres liens, c'est ce que dit Cathy d'ailleurs, on entend bien sûr qu'il y a le courage mais il y a aussi les mains tendues, les mains aimantes parce que c'est vrai qu'on n'arrive à rien seul, mais vous pouvez vous entourer, vous êtes entouré aussi de gens aimants autour de vous, ne l'oubliez pas. Et on aura certainement des contacts à vous communiquer. Et je vous dis, si vous voulez être en contact avec Michel, Thérèse ou Louisette hors antenne, ce sera bien volontiers. Merci d'ailleurs à vous trois. Thérèse, je vous embrasse, prenez soin de vous. Merci à vous, Michel et Louisette. Et vous aussi, Sophie, merci parce que, comme merci le dit la dame de cœur, c'est une leçon de vie, en fait, ce soir, que vous nous offrez. Merci pour cela. Je vous embrasse bien fort.
Et n'hésitez pas à donner mes coordonnées.
Avec plaisir, promis, on le fera, c'est promis. Au revoir.